Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg. Aujourd'hui, on va parler actualité avec un témoin qui connaît bien Israël, qui connaît bien également le monde politique. Elle a été rédactrice en chef adjointe de l'Express et du Nouvel Observateur et créatrice du site ProcheOrient.fr, site qui malheureusement depuis a fermé. Bonjour Elisabeth Chemla. Moi aussi, très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité. On va peut-être commencer, Elisabeth, par parler de, du grand événement qui a lieu il y a quelques semaines, c'est l'élection de Donald Trump. Je ne voulais pas parler ni de l'immigration, ni du problème économique. Je voulais parler du sociétal, où Donald Trump fait la route contre les gens et contre le wokisme. Est-ce que vous pensez que ce combat va dépasser les frontières et arriver ici, chez nous, en France ?
Ce qui est certain, c'est que les États-Unis, comme toujours, alors évidemment, sur le sujet qui nous occupe, c'est un petit peu le phare. Il s'y passe généralement, avec anticipation, ce qui va arriver chez nous. Je pense que c'est probablement ce qui pourrait en effet se passer, parce que je crois que dans un premier temps, l'ensemble de la société française et la classe politique vont suivre la façon dont ça évolue aux États-Unis sur ce sujet, sur ce clivage fondamental. Si les observateurs voient qu'il y a en effet un coup d'arrêt qui est mis au wokisme, qu'il est possible, et qu'il est possible sans trop d'atteinte à la démocratie, aux libertés auxquelles nous tenons énormément, la porte est ouverte à l'autorisation. Voilà. C'est exactement comme ça que je résumerai les choses. Comme pour beaucoup d'autres sujets, Trump a ouvert la voie à l'autorisation. Ensuite, chacun va voir comment il le fait, comment il l'adapte, s'il a envie de le faire. Et je pense que c'est ce qui se passera pour la France.
On voit qu'il y a une véritable bataille entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que cette bataille est déjà perdue par l'Europe ?
Écoutez, je ne sais pas, c'est difficile de répondre vraiment sérieusement à cette question. Alors, la bataille, si nous parlons des droits de douane, nous avons quand même incontestablement des mesures de rétorsion. Et ce que l'on voit bien, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Mexique, avec le Canada, c'est qu'en fait, Trump, c'est un bargainer, comme on dit, hein, comme on dit en anglais. Donc, il fait du marchandage, il fait de la pression, il fait du troc. Je pense que sur le strict point de vue des droits de douane, même si pour l'industrie automobile française notamment, tout ça est extrêmement difficile, on l'a vu en bourse, sur les marchés, etc., il y a quand même des capacités de négociation. Là où je pense que les États-Unis, et avec évidemment tout le paquet, pardonnez-moi la familiarité de l'expression, que Trump et Musk mettent dessus, c'est sur le terrain de l'intelligence artificielle. Et là, je crains que la partie soit perdue.
Alors, on ne va pas trop parler parce que Trump est arrivé il n'y a pas très longtemps et donc on attend un peu plus d'informations. On va parler de Trump dans un instant concernant la situation en Israël. On a eu un accord qui a permis de libérer plusieurs otages et on s'en réjouit. Par contre, au début de l'accord, beaucoup de spécialistes affirment que c'est un mauvais accord. Est-ce que vous rejoignez ces commentaires ?
Écoutez, Jean, pour tout vous dire, je crois que ce matin, nous sommes devant une bombe lancée hier soir pour nous par Donald Trump qui pulvérise absolument toutes les analyses, qui laisse le monde stupéfait dans un premier temps, qui ne manquera pas d'entraîner de très 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 nombreuses réactions. Mais enfin, hier soir, le président des États-Unis, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël en 1948, a brisé un tabou imbrisable. Je pense que les conséquences de ce propos, si ce n'est de cette décision, je crois que ce n'est pas la peine ici de redire tout ce qui a été énoncé hier soir par Donald Trump. change considérablement les choses du tout au tout. Et il me semble qu'aucun observateur, aucun analyste honnête, à l'heure où nous nous parlons, n'est en mesure de dire ce qu'il peut advenir. C'est impossible. Tout est rebattu. Tout. Ce conflit israélo-palestinien, comme d'ailleurs l'ensemble de ce qui vient déjà de se passer dans la région, et là non plus, je ne reviens pas dessus, est pulvérisé littéralement par l'annonce d'hier.
Alors avant de parler de cette annonce d'hier, je voudrais quand même vous revenir sur cet accord avec les otages. On a vu aussi les mises en scène du Hamas. Vous, quelle est votre réaction? Il fallait signer cet accord?
Écoutez, à l'heure où nous nous parlons, toujours, je ne sais pas si cet accord va tenir. Pourquoi? Parce que vous avez vu les réactions du Hamas face à la déclaration de Trump d'hier. Rien ne dit, étant donné que Netanyahou, évidemment, a acquiescé, je ne dis pas qu'il a applaudi des deux mains, je dis qu'il a acquiescé. Personne ne peut dire ce matin comment le Hamas va réagir pour la suite de l'accord, c'est-à-dire pour la libération encore des otages vivants ou hélas morts qu'il doit rendre, et pour l'échange avec les prisonniers. Peut-être que tout va voler en éclats là aussi, parce que le Hamas voudra une sorte de vengeance, de mesure de rétorsion. Mais comment le dire ce matin? En tous les cas, cet accord qui avait donné ce que l'on sait jusqu'à présent, me semble, même s'il y a une équipe israélienne à Doha qui est partie pour négocier, même si on imagine bien que les Américains notamment ont la main dans la négociation avec à la fois le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., c'est très difficile de dire que ça va tenir. Ce que l'on sait, c'est que Trump veut absolument que tous les otages reviennent à la maison. Là-dessus, je ne crois pas qu'il va céder, Netanyahou non plus. Maintenant, on est à la merci, c'est-à-dire ils sont à la merci de la réaction du Hamas et de ceux qui soutiennent le Hamas et des négociateurs eux-mêmes. Alors, c'est un monde bouleversé ce matin auquel nous sommes confrontés.
Alors, Elisabeth Semla, il y a quand même une question que je me pose, c'est difficile pour Netanyahou de gérer. On sait que s'il signe l'accord, sa coalition va être complètement bousculée. Après, il y a toute la suite qui va faire, les réélections, la possibilité que son élection n'ait pas lieu. Comment vous voyez l'avenir
de Netanyahou?
Oui.
Écoutez, je lisais tout à l'heure, comme vous, Jean, qu'apparemment, une majorité de l'opinion publique israélienne apprécie ou approuve les propos de Trump hier soir. Si c'est exact, je dis bien si c'est exact, il faut être vraiment très très prudent, très modeste, être plein d'humilité là ce matin. Si c'est exact, je ne vois pas pourquoi Netanyahou n'aurait pas un avenir politique.
Sauf que ce matin, Yair Lapid a défoncé un peu le projet américain. Il a dit que c'était irréalisable et que...
Absolument.
Apparemment, il n'y a pas d'unité en Israël.
Tellement, Yair Lapid, je vais paraphraser la célèbre phrase, combien de divisions? Alors c'est pour ça que je dis, si ce que le sondage de tout à l'heure est exact, c'est-à-dire qu'une majorité d'Israéliens approuve un déplacement des Palestiniens de Gaza, et là aussi il faudrait aussi parler de la Cisjordanie, de ce qui s'y passe, quelle est l'intention derrière, l'intention de réalisation derrière. Si une majorité approuve, Lapid, je ne dis pas que Lapid a tort, hein, c'est pas ça du tout, j'essaye juste d'analyser froidement, ça n'est pas une majorité. Ça n'est pas une majorité. Or, aujourd'hui, ce que nous savons très bien les uns et les autres, c'est que les Israéliens ne croient plus du tout et ne veulent plus du tout d'un État palestinien à côté. Cette histoire, il l'a dit très bien, Trump, hier, il a eu une très bonne phrase là-dessus. Les Israéliens, dans leur ensemble, n'en veulent plus du tout. Alors, s'ils n'en veulent plus du tout, quid de l'avenir de Gaza et de la Cisjordanie? Alors c'est une question dont tout le monde disait qu'il fallait que Netanyahou se la pose avant. Je dirais que la preuve qu'il faut toujours mener une guerre avec un objectif, certes, mais aussi par les étapes nécessaires, Les étapes nécessaires ont eu lieu, avec le succès que l'on sait, ce que l'on a l'air d'oublier aujourd'hui. Et maintenant, qui aurait dit, il y a encore même 15 jours, 3 semaines, un mois, qui aurait dit que nous nous trouvions ce matin devant la Côte d'Azur, Gaza Côte d'Azur, et 2 millions de Palestiniens transférés ailleurs. Vous voyez, c'est très compliqué. Hein,
alors, je sais que vous n'êtes pas Benjamin Netanyahou, mais selon vous, quelle est la porte de sortie d'Israël? Comment Israël doit réagir par rapport à ses propositions, par rapport à la réalisation, par rapport à la solution politique de Gaza?
Écoutez, j'ai l'impression que Netanyahou, de sa propre réaction, de ses propres propos, n'est-ce pas, il a dit qu'il fallait réfléchir, il était preneur, qu'il fallait y réfléchir. Alors, évidemment, ça peut être une manipulation médiatique de dire ça, mais je pense que quand même lui-même est confronté malgré tout à l'ampleur de ce que ça représente. Est-ce qu'il saura, s'il l'adopte, et il l'adoptera par la force des choses, parce que Trump est plus fort que lui, est-ce que les Israéliens vont suivre? J'aurais tendance à dire que oui, mais voilà, je dis ça comme ça, hein, c'est vraiment un sentiment plus qu'une analyse.
Le fait que le président américain Donald Trump refuse d'attaquer l'Iran, c'est pas une très bonne nouvelle pour Israël?
Écoutez, c'est pas une très bonne nouvelle pour Israël, oui et non. Parce que si l'Iran, d'abord on sait tout ce qui se passe en Iran, ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas comme eux-mêmes les ayatollahs veulent nous le présenter, le pouvoir iranien. D'abord, il y a beaucoup de contestations, incontestablement. C'est un pouvoir qui a à la fois une force, une puissance, mais aussi une artificialité de plus en plus considérable et qui éclate de plus en plus aux yeux du monde et de sa propre société. Deuxièmement, l'affaiblir considérablement économiquement, il faut voir encore ce que ça va signifier très clairement, c'est aussi quand même, d'une façon ou d'une autre, intervenir sur le programme en question. Maintenant, Trump, on le sait, il n'aime pas la guerre, ce n'est pas sa tasse de thé du tout. En effet, il impose quelque chose à Netanyahou qui n'était probablement pas son intention. Il espérait bien avoir l'accord américain pour pouvoir, en tout cas, attaquer certains points, mais ça ne peut pas se faire sans l'aide militaire américaine. Donc, à ça, Trump répond non. Est-ce que pour autant, c'est très très embêtant pour Israël? Aujourd'hui, je ne le crois pas, parce que je pense qu'on ne mesure pas à quel point l'Iran est quand même considérablement affaibli.
Alors, Eliad Shelmla, on va faire une pause musicale et on se retrouve après pour parler de l'actualité en France. A tout de suite.
A tout de suite.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka pour la deuxième partie de cet entretien spécial dans Talk Show avec Elisabeth Chemla. Elisabeth Chemla, on sait que vous êtes aussi très férue de politique nationale, de ce qui se passe juste avant. Le fait qu'il y ait une montée exponentielle des actes antisémites, ça vous pose problème ?
Comment ça ne poserait-il pas problème ? Bien sûr, évidemment que la poussée de l'antisémitisme, en tous les cas dans le monde occidental et notamment en France, première communauté juive européenne, troisième du monde, est un problème considérable, à la fois de vie quotidienne, de vie politique et de morale. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je vois bien, nous avons tous des exemples de la difficulté dans la vie courante que peuvent rencontrer certains Français juifs, un nombre certain de Français juifs.
On rappelle juste avant que vous êtes vous aussi, je crois, conseillère municipale.
Je l'étais, je ne suis plus absolument. Voilà. Et donc, il ne s'agit absolument pas de fermer les yeux là-dessus. Je dis ça par rapport à ce que je vais dire ensuite. D'abord, je crois que l'antisémitisme, fondamentalement, c'est d'ailleurs fort intéressant, vous ne le trouvez pas quand même auprès de milliards d'hommes et de femmes et d'enfants qui s'appellent la Chine, les Chinois, qui s'appellent les Indiens. C'est un phénomène qui est proprement de notre grand espace géo-civilisationnel. Et donc cet antisémitisme, pour moi, je l'ai toujours considéré ainsi, il est quelque chose d'irréductible, d'irrépressible, parce qu'il est fondé, me semble-t-il, c'est vraiment une analyse tout à fait personnelle, sur la singularité absolue, et les mots ont un vrai sens, sur la singularité absolue de l'histoire juive et du judaïsme. Cette singularité absolue, je ne vais pas revenir sur tout, de l'exil, des exils, à la création d'un État, d'une langue, etc., évidemment de Dieu, du monothéisme, elle fait que c'est incompréhensible, et comme tout ce qui est incompréhensible et mystérieux, est inacceptable par énormément de gens. Qu'ils soient concernés d'une façon ou d'une autre par la singularité de cette histoire.
Pourtant, on voit que ces actes continuent, et il n'y a pas vraiment, de personnes qui veulent s'attaquer à ce problème-là. On l'a vu avec Macron qui a refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme.
Oui, alors attendez, parce que pour moi, nous ne sommes pas dans notre discussion, notre échange, nous ne sommes pas tout à fait sur le même plan. J'ai essayé d'abord de vous dire à mes yeux pourquoi l'antisémitisme existe et pourquoi il va continuer à exister.
J'ai compris.
Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, s'ensuit à partir de là, c'est que la chose la plus importante, c'est de savoir, on a vu que chaque fois que ça l'a donné la catastrophe, ça l'a donné parce que le pouvoir politique lui-même était antisémite.
D'accord.
Avec tout ce qui s'en suivait, y compris des lois spéciales et l'élimination, à chaque fois dans l'histoire. Nous n'avons absolument pas affaire à ça dans aucun de nos pays, dans aucun. C'est une différence absolument fondamentale historiquement, me semble-t-il, entre ce que les Juifs ont connu dans nos sociétés, en France évidemment, et ce qui se passe aujourd'hui. Mais vraiment pour moi fondamental. Peut-être ai-je tort, Jean.
Ouais.
Mais je crois, or nous n'avons évidemment pas un pouvoir antisémite, nous n'avons pas des institutions antisémites, nous n'avons pas de constitution antisémite, et nous n'avons aucune loi spéciale antisémite.
Ok. Alors justement, ça fait, l'écho à la prochaine question. On voit que cet après-midi que le Premier ministre sera toujours Premier ministre et que les motions de censure ne seront pas suivies par le Parti Socialiste et le Rassemblement National. Ça veut dire que c'est la fin du NFP ?
Ah ça, la fin du NSP, pour moi, comme pour vous, j'imagine, en tant qu'observateur aigu, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est fini. Ouais. Je ne vois pas comment... enfin, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, au sens le plus propre du terme, c'est-à-dire regarder le visage haineux, crachant, c'est un visage crachant, de Jean-Luc Mélenchon, pour comprendre que c'est terminé et que LFI est isolé. Maintenant, faut pas enterrer LFI trop tôt. Mmh. Je parle notamment dans la perspective des municipales. Si on vient d'avoir deux partiels qui laissent entrevoir quelques difficultés, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas le PS aux côtés de LFI, il a plus de mal à passer sur le terrain. Mmh. Mais pas partout, et notamment pas en Ile-de-France. Mmh. Donc, oui, je pense que cette alliance est morte. Et en même temps qu'il faut vraiment être très prudent concernant LFI. Surtout, pardon, mais compte tenu de leur électorat et de... Moi j'appelle LFI le parti, non pas la France insoumise, mais la France islamiste, c'est que nous ne savons pas aujourd'hui comment leur électorat va réagir à Trump, à ce qu'il veut faire avec les Palestiniens et Gaza et la Cisjordanie, et tout ça va encore changer les choses.
Dans quel sens ? Dans le sens où...
D'aggravation, d'accord. Bien entendu. D'accord. D'aggravation. Vous imaginez, il n'a pas encore fait de déclaration, je crois, Jean-Luc Mélenchon, en tous les cas, au moment où nous nous parlons. Vous imaginez ce qu'il va en dire.
Oui.
Vous imaginez comment il va incendier ses électeurs et les foules.
D'accord. On est au début de l'année 2005. Quels seraient vos souhaits pour cette nouvelle année ?
Écoutez, je crois que d'abord mon souhait, c'est au-delà de toute autre analyse, c'est que tous les otages vivants ou morts reviennent en Israël. C'est mon premier vœu. Le deuxième vœu, ce serait qu'on arrive dans la région du monde qui nous intéresse à quelque chose qui relève peut-être plus du troc, mais qui permet une relative stabilité. Et en ce qui concerne la France, je vais peut-être vous étonner, mais je crois que il est très bien que le gouvernement Bayrou, qui va peut-être durer un peu du coup, installe une forme de stabilité qui est appelée par tout le monde. Cependant, nous sommes dans une telle situation économique que je pense qu'il faudrait quand même prendre le taureau par les cornes et commencer à résoudre cette affaire, ce qui n'est pas le cas du tout avec le budget qui va sortir.
Parlons de vous, Elisabeth Semblat, vous avez des projets ?
Eh bien, écoutez, oui. D'abord, comme vous le savez sûrement, je collabore à l'Arche.
Oui.
Donc ça, c'est le journalisme. Mais je me lance dans un prochain livre, dont je ne peux pas encore parler parce que je dois le faire avec mon éditeur ce soir.
Ah, et c'est un roman, un document.
C'est à mi-chemin entre le roman et le journalisme, si j'ose dire. Je vous promets, Jean, vous en parle.
On parle de l'Algérie ou pas ?
Pardon ?
On parlera de l'Algérie dans votre livre ?
Non, pas du tout. Ah. Je crois qu'on parlera plutôt de Trouville et de Trouville-Deauville et de ce coin de Normandie.
D'accord. Alors, on en reparlera dès que le livre sera sorti. On vous invitera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Elisabeth Semblat, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, à très bientôt.
À très bientôt.
Merci,
au revoir. À très bientôt.